C'est à l'équipe de louanges de nous avoir menés dans l'adoration. Et pour ceux que je n'ai pas encore rencontrés il y a 4 ans, on était venus il y a 4 ans pour vous dire au revoir parce que nous avons quitté la France il y a un peu plus de 4 ans et nous avons été envoyés en tant que missionnaires. Donc c'est un missionnaire, c'est des personnes que Dieu envoie par son Église pour annoncer la bonne nouvelle. Et voilà 4 ans qu'on ne s'est pas vus et j'ai pu revoir Philippe Gao avec le pasteur Daniel autour d'un bon repas, comme vous savez le faire. Et aussi Clément Lévesque, qu'on a des amis en commun puisqu'on a fait l'Institut biblique aussi ensemble. Donc voilà, pour ceux qui ne nous connaissent pas, nous venons actuellement du Québec. On est actuellement à Montréal. Vous avez les salutations de Joël Cuyoche, que vous connaissez bien. Et au Québec, je ne sais pas à quoi vous pensez lorsque vous pensez au Québec, mais à chaque fois que je rencontre des gens, les gens me disent « Philippe, au Québec, il fait froid !» Avec 6 mois à moins 20 degrés généralement, c'est vrai qu'il fait froid. Et on attend tous ce temps d'été où on se retrouve tous ensemble, où les amis sortent, où les églises se rassemblent. Et c'est un peu comme nous ici en France où le printemps, on a les pique-niques, on a les barbecues, vous avez de très bons moments de communion fraternelle. Et j'ai déjà senti la bonne nourriture préparée par le chef Bernard au fourneau. Et en ce matin, j'aimerais vous demander quels sont les ingrédients pour un bon barbecue. Est-ce que vous avez des idées, ceux qui aiment bien manger? Il faut d'abord une bonne météo. On ne peut pas faire de barbecue sans une bonne météo. Il faut de la viande pour les jeunes qui mangent de la viande. Il faut des légumes pour ceux qui veulent rester en bonne santé. Et aussi, il faut du bon charbon, un bon cuistot. Et donc, il y a tous ces ingrédients pour qu'en fait, on puisse passer un très beau moment tous ensemble. Et s'il manque un des ingrédients, bah souvent, le moment ensemble ne se passe peut-être pas aussi bien que prévu. Et en ce matin, j'aimerais vous partager quelques ingrédients de la mission de Dieu. Merci à notre sœur qui a lu le passage en Matthieu, chapitre 28, versets 19 à 20. Et en fait, j'aimerais, ce verset, on le cite énormément dans la mission, et peut-être que vous avez grandi dans une église et que ce verset, vous les connaissez. Il y a des bribes, il y a, oui, des disciples, les nations, le baptême. Et en ce matin, j'aimerais nous encourager à méditer sur la parole de Dieu et sur les derniers mots de Jésus. C'est l'évangile de Matthieu qui arrive juste après l'Ancien Testament. Et le but de Matthieu, le disciple Matthieu, c'était de prouver aux Juifs que le Messie était Jésus-Christ. L'évangile de Matthieu arrive juste après le dernier livre de Malachie comme une continuité de l'Ancien Testament. Et c'est le livre de l'Évangile où il contient le plus de citations de l'Ancien Testament pour montrer que, hey, c'est la personne qu'on attendait, c'est Jésus-Christ. Et en ce matin, j'aimerais vous poser quelques questions. Qu'est-ce qu'un disciple? Qu'est-ce que Jésus nous appelle à être ou à faire? Et concrètement, qu'est-ce que cela change à ma vie d'aujourd'hui? Est-ce que cela concerne seulement les pasteurs, les missionnaires, les ouvriers? Ou est-ce que cela me concerne aujourd'hui, moi qui suis chrétien? Et c'est pour ça que je vous invite à ouvrir vos Bibles ou vos smartphones dans le dernier chapitre de Matthieu. Et ces versets s'inscrivent après la mort de Jésus-Christ sur la croix et à sa résurrection. Les disciples avaient vécu 3 ans avec Jésus. Tous les jours, ils étaient avec Jésus. Et là, Jésus meurt. C'est comme si leur monde s'écroulait. Et Jésus revient et leur dit « Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit, et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » En ce matin, je vous propose un résumé de ces 2 versets, comme quoi la mission ordonnée par Jésus continue à s'accomplir par le Dieu trinitaire qui attire, baptise, enseigne des disciples s'engageant par amour et obéissance. La mission ordonnée par Jésus continue à s'accomplir par le Dieu trinitaire qui attire, baptise, enseigne des disciples s'engageant par amour et obéissance. Et pour cela, je vous propose quatre ingrédients. Et les quatre ingrédients essentiels de la mission de Dieu nous engagent, nous qui sommes chrétiens, à premièrement être des disciples. Deuxièmement, s'engager par le baptême. Troisièmement, s'enseigner à obéir à la parole de Dieu. Et quatrièmement, de demeurer en Dieu et son esprit. Imaginez-vous à la place des disciples que pendant toutes ces années, vous avez attendu le Messie, pendant 30 ans, 40 ans de vie, et que vous le voyez enfin, et que vous vivez jour après jour avec lui, et que du jour au lendemain, il meurt. Et on a vu que tous les disciples étaient dispersés, ils étaient troublés, parce qu'ils attendaient le libérateur qui allait les libérer du peuple romain. Et donc, ces versets s'inscrivent juste après sa résurrection où les femmes vont dire aux disciples, « On a vu Jésus, il est ressuscité !» Et les disciples ont eu des doutes, ils n'y croyaient pas. Mais lorsque Jésus se révèle à eux, il leur donne cet ordre d'aller et de faire de toutes les nations des disciples. Et c'est un commandement que Jésus leur donne. Et avec ce mot « aller », il y a un changement de paradigme. C'est-à-dire que lorsque vous voyez dans l'Ancien Testament, c'était les peuples des autres nations qui venaient à Jérusalem pour rencontrer Dieu. Comme l'exemple de Rahab qui a entendu parler de la réputation et de Dieu à travers Josué et son peuple. Ou la reine de Saba qui a entendu parler de Dieu à travers la sagesse de Salomon. Et donc Jésus utilise le mot « aller » comme un changement total de ce qui se faisait auparavant, que Dieu en fait avait fait alliance avec un peuple choisi, Israël, et qu'aujourd'hui il leur dit « maintenant, allez, autre part ». C'est comme pour ceux qui ont des enfants, il y a toujours, on fait attention aux aimants. J'ai vu beaucoup d'enfants et gloire à Dieu, continuons à voir des enfants louer le Seigneur. Et certains enfants, on joue avec un aimant et l'aimant attire le métal, hein, attire. Et c'était comme cela auparavant dans l'Ancien Testament. Les peuples étrangers étaient attirés par le peuple de Dieu. Mais là, Jésus leur dit, maintenant, c'est aller, comme une essoreuse à salade qu'on essore pour ceux qui font la cuisine et que la salade va dans tous les sens. Et c'est pareil pour nous, les chrétiens. Il nous appelle à être en mouvement et à aller jusqu'aux extrémités de la terre. Et pour être dans ce commandement, Jésus nous parle du mot « disciple ». Qu'est-ce qu'un disciple ? Le mot « disciple », premièrement, veut dire un apprenti, un étudiant. Pour ceux qui font de l'alternance, vous avez peut-être quelqu'un que vous suivez, un mentor, un coach, qui vous apprend les bases, comment utiliser un fichier Excel, comment changer une roue. Et donc, un disciple, c'est quelqu'un qui apprend, qui étudie. Et un disciple de Jésus, c'est quelqu'un qui apprend la vie de Jésus, comment il réagissait dans la vie de tous les jours. Et pour faire des disciples, on doit premièrement être des disciples. Malheureusement, l'un des freins à la mission de Dieu, c'est bien notre témoignage. Combien de fois nous avons entendu « Ah, mais je ne savais pas qu'il était chrétien ». Ah oui, son témoignage ne me l'aurait pas fait croire. Mais si nous voulons faire des disciples en premier, nous devons premièrement être nous-mêmes des disciples de Jésus. Et donc ça commence par suivre le maître parfait. Lorsque j'étais en alternance, nous les Français, on a toujours on a le souci du détail. Ah, mais je pense que cette personne qui me suit peut faire mieux sur ça. Ou lorsque vous pensez à votre N plus 1 ou votre N plus 2, il y a toujours quelque chose. Ah, mais je pense qu'il peut mieux faire sur certains aspects. En fait, on aspire tous à un modèle parfait, d'une personne parfaite, d'une personne qui pourra nous montrer le chemin. Et en fait, Jésus, comme nous l'avons chanté, s'est incarné pour nous montrer le chemin face à toutes les épreuves de la vie, face à la mort, face à la maladie, face à la faim. Jésus nous a montré le chemin vers le Père et son entière dépendance. Et donc, c'est vraiment notre encouragement aujourd'hui, avant de faire des disciples, que nous soyons nous-mêmes des disciples intègres dans notre témoignage. Et il nous a laissé un modèle que, premièrement, c'est par la repentance de notre vie passée, de nos péchés et notre confiance en Jésus-Christ que nous sommes des disciples. C'est la première étape, la conversion, que lorsqu'on sent que le Seigneur nous attire à lui, qu'on a cette conviction du péché et qu'on lui demande pardon pour notre vie d'avant et qu'on dit et qu'on déclare que seul Jésus-Christ et sa mort à la croix nous pardonne de nos péchés et nous donne cette vie éternelle. Pour être un disciple, c'est la première étape qui est la conversion. Et ce n'est pas nous, mais c'est Dieu qui nous choisit. Et le modèle que Jésus nous laisse est un modèle relationnel. Jésus aurait pu être au-dessus de tout le monde et dire comme un dictateur, « Suivez-moi, je suis Dieu, hop, ne dites rien et suivez-moi. » Mais non, Jésus a montré comment être disponible pour les personnes qui le suivaient. Et il y avait souvent trois types de personnes qui le suivaient. Premièrement, la foule qui est là pour les bénédictions. « Ah, j'ai entendu que Jésus il donne à manger, je vais aller manger à ma faim. Ah, j'ai entendu que Jésus il guérit les malades, je vais aller porter ma maladie et aller le voir pour la guérison. » Mais il n'y avait souvent pas l'engagement. Et c'est pour cela que Jésus il invite 12 disciples à le suivre beaucoup plus proche, à leur dire « Je vais vous montrer ce que je vais faire et vous serez un peu les témoins de ce que je fais dans un cercle plus restreint. » Et encore, Jésus nous montre qu'il a choisi parmi ses 12 disciples, 3 disciples qu'il aimait le plus, en Pierre, Jean et Jacques. Quand il est parti sur le mont de la Transfiguration, c'est les 3 qu'il a amenés. Et c'est aussi un modèle pour nous en tant qu'Église, que peut-être que le dimanche, lorsqu'on a 50 cultes réunis, 100 personnes ensemble, on peut parfois se sentir seul. Mais la parole de Dieu est proclamée, la louange est là. Et en semaine, il est nécessaire d'avoir un groupe où on se réunit, où on prie les uns pour les autres, où on développe la communion fraternelle, où il y a cette intimité, où on peut se porter les fardeaux des uns des autres. Et ensuite, plus précisément, il y a un petit cercle, encore plus restreint, qui est là où nous confessons nos péchés. Nous sommes redevables, vulnérables. Et donc Jésus nous laisse ce modèle pour nous en tant qu'Église. Et c'est vrai que lorsqu'on parle de faire des disciples, on pense souvent à l'extérieur. Ah oui, l'Église, il y a aussi mes collègues de travail. Et lorsque là, j'ai vu beaucoup d'enfants, j'aimerais nous encourager, nous, parents, pères de famille, chefs spirituels, à faire de nos enfants des disciples, à leur enseigner la parole de Dieu, à leur enseigner les louanges, à leur enseigner de prier, parce que c'est notre mandat. Et il y a des saisons où on ne peut pas être partout. Lorsqu'on a 2-3 couches dans le sac ou plein d'enfants à notre charge. Et c'est une saison que Dieu nous demande d'être vraiment intentionnel dans la transmission de son message. Et donc, Jésus vraiment leur dit que je vous ai laissé pendant 3 ans un modèle à reproduire. Ce modèle de relation, ce modèle de discipula. Et il nous dit que maintenant, c'est que toutes les nations soient des disciples. Lorsqu'on parle des nations, on parle des peuples, les différents peuples dans le monde. Et aujourd'hui, le but de Dieu a toujours été les nations. Lorsqu'avec Abraham, il leur dit que tu seras une bénédiction pour toutes les nations, et qu'en Jésus-Christ, toutes les nations sont bénies, le plan de Dieu n'a pas changé. Il désire toujours se faire un peuple parmi toutes les nations et des disciples. Il y a une statistique dans le monde de la mission qui est que 3,56 milliards de personnes n'ont jamais entendu parler de Jésus. 3,5 milliards vivent et meurent sans entendre parler de Jésus, sans avoir cet espoir que leurs péchés sont pardonnés et que la vie éternelle peut se donner en Jésus-Christ. Et parmi ces 3 milliards, il y a 17 000 peuples, que ce soit des Africains, des Asiatiques, des Européens. Les nations attendent d'entendre parler du Rédempteur et du Sauveur. Nous sommes actuellement, comme je vous l'avais dit, au Québec. Et au Québec, avant, c'était très catholique. 95% des gens étaient catholiques. Et lorsqu'aujourd'hui on parle de Dieu, ils n'en veulent plus. Parce qu'ils ont vu tous les traumatismes, toutes les blessures de l'Église catholique. Et ils disent, mais non, votre Dieu là, c'est pas ce qu'on veut. Ça a créé trop d'abus. Et donc c'est pour nous un rappel aujourd'hui dans la parole de Dieu que nous avons la responsabilité de vivre en tant que disciples. Que lorsque nous voyons Jésus-Christ et sa vie sur terre, nous pouvons voir le chemin vers le Père. Et donc le deuxième ingrédient ce matin que je vous propose, c'est premièrement le baptême, de s'engager par le baptême. Et voyez bien, lorsque Jésus utilise ces versets, il utilise la particule « les baptisants ». C'est-à-dire que le premier ordre, c'est de faire des nations des disciples. Comment ? Les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Mon pasteur à Montréal est baptisé enfant. Sa femme est baptisée enfant. Mon pasteur louange est baptisé enfant. 95% des personnes âgées de plus de 50 ans sont baptisées catholiques. Est-ce qu'ils sont sauvés ? Non, parce que c'est seulement la grâce de Dieu manifesté en Jésus-Christ qui sauve. Et s'ils n'ont pas compris le salut par la grâce en Jésus-Christ, le baptême est inutile. Le baptême, c'est premièrement un engagement de comprendre la personne de Christ, ce qu'il a fait sur la croix, et qu'est-ce que cela, ça change pour moi aujourd'hui. C'est un symbole de la mort et de la résurrection que, par le plongeon que nous faisons, nous mourrons à nous-mêmes, que nos péchés sont effacés et que nous déclarons que nous ressuscitons avec Christ et que nous voulons le suivre et faire de lui notre Seigneur et Sauveur. Et donc le baptême, c'est vraiment une œuvre de Dieu. Peut-être que vous avez entendu de nombreux frères et sœurs dire « Ah, c'est quand tu te baptises, c'est quand que tu passes par les eaux du baptême. » Et c'est toujours l'œuvre de Dieu qui attire à lui. Ce n'est pas nous qui choisissons, c'est lui qui nous a choisis. Et bien sûr, il nous donne cette responsabilité de nous engager par le baptême. Je dis toujours qu'on peut passer des années à faire découvrir l'Évangile, mais lorsque nous déclarons que nous sommes chrétiens par les eaux du baptême, c'est comme le début de notre vie de disciple. Parce que c'est comme un mariage. Lorsqu'on est fiancé, on n'est pas encore marié, même si on veut lui dire « mon mari, ma femme ». Mais il y a un symbole qui est le mariage, qui pose et qui scelle l'homme et la femme en tant que mari et femme. Et c'est pareil pour le baptême. Peut-être que vous avez grandi dans une famille chrétienne et que vous vous dites chrétien, mais le baptême, c'est le sceau de votre engagement, de notre engagement à dire que je suis un chrétien. Et un disciple. Lorsque aujourd'hui on a un ministère pastoral, j'accompagnais une personne de 85 ans qui était ancien négociateur au SWAT, les unités d'élite. Et lui, il est venu à l'église pendant 35 ans, tous les dimanches pendant 35 ans. Et il y a 10 ans, il me dit, mais je viens à l'église, je suis baptisé enfant. Mais aujourd'hui, j'aimerais me baptiser en pleine conscience, par amour et par obéissance pour Dieu. Et avant de rentrer ici pour notre tournée d'église cet été, il a voulu passer par les eaux du baptême et les cours du baptême à 85 ans. Et c'était tellement un bon témoignage de dire que Dieu continue à agir. Et il pouvait continuer à écouter la parole de Dieu, mais ça prenait sa propre engagement et la conviction du Saint-Esprit. Jésus ici nous parle du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et c'est la première mention de la Trinité. Parce que c'est vraiment le Père qui a conçu le plan du salut depuis Genèse à Apocalypse. Le Fils qui accomplit le plan de salut par sa mort sur la croix. Et le Saint-Esprit qui nous fait comprendre. Waouh, quelle grâce, quelle bonne nouvelle. Et donc ce n'est que l'œuvre de Dieu qui nous montre la voie vers ce que Dieu a promis. Peut-être dans votre entourage avez-vous connu des frères et sœurs qui se sont baptisés tout feu, tout flamme et qui disaient que ouais, je vais changer le monde pour Jésus, je vais évangéliser, je vais partager la bonne nouvelle partout. Et qu'au fur et à mesure des années, les épreuves arrivent, les difficultés de la vie, les tentations de ce monde. Et petit à petit, qui s'éloignent de la communion fraternelle, de l'Église. Et donc ici, Jésus nous dit que le baptême, c'est une des premières étapes, mais il faut continuer à persévérer dans l'enseignement. Et c'est là où on voit la centralité de la parole de Dieu. Enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit, dit Jésus. Lorsqu'on parle de la vie chrétienne, il y a souvent trois étapes. La première étape, c'est de découvrir. Lorsqu'on découvre la bonne nouvelle de Jésus-Christ et que le Saint-Esprit nous touche, on se dit « Waouh, c'est énorme !» Comment Dieu connaît tous mes péchés, sonde mon cœur et les a pardonnés en Jésus-Christ sur la croix. Et qu'aujourd'hui, je suis enfant de Dieu et complètement saint en lui. Donc la première étape, c'est que lorsqu'on découvre, ou lorsque avec des collègues, on ouvre la Bible, on découvre la bonne nouvelle. Ensuite, il y a la croissance. On grandit en connaissance. On grandit à connaître Dieu, à s'attacher à sa parole, à s'attacher à une église, à s'attacher avec des liens fraternels forts. Et la troisième, c'est on rayonne. Lorsqu'on a compris, on a grandi, on veut que tout le monde puisse le connaître. En ce matin, peut-être que tu te retrouves dans une des étapes et tu te dis, oui, peut-être que je me suis arrêté à une étape. Peut-être que j'ai cessé de grandir dans la parole de Dieu, dans la communion fraternelle ou dans la prière. Ou peut-être que tu te dis, j'ai envie de rayonner dans mon travail. Seigneur, utilise-moi. Et donc, Jésus nous parle de la centralité de la parole, qu'il faut s'enseigner les uns les autres la parole de Dieu. Et cette parole, cette Bible qu'il nous a laissée, la révélation spéciale, c'est plus de 66 livres de 40 auteurs sur 1500 ans qui racontent la même histoire, que Jésus est venu et qu'il reviendra, comme nous l'avons lu en Apocalypse. Et donc, elle est inspirée de Dieu, et tous les hommes auteurs étaient inspirés et poussés par le Saint-Esprit à rédiger. Il n'y a aucune erreur. Lorsqu'on voit l'Ancien Testament, on voit qu'ils annonçaient l'arrivée du Messie. Et l'arrivée du Messie est venue en Jésus-Christ. Et lorsqu'on lit le Nouveau Testament, on voit l'annonce de la seconde venue de Jésus-Christ qui reviendra pour nous chercher. Et donc, cette parole qui ne change pas est celle qui nous mène, qui nous dirige au quotidien, personnellement et en Église. Je dois l'avouer qu'avant de partir en mission, étant donné que j'étais chef d'entreprise, je prenais très peu de temps pour lire la Bible. Peut-être 2-3 minutes. Et Seigneur, je prie 3-4 minutes. Et ça y est, ma journée avance. Et donc, c'est là où je vois, lorsque j'ai étudié à l'Institut biblique de Genève, tout le plan de Dieu et comment il nous a fait grâce de nous choisir, comment il nous a fait grâce de se révéler à nous et de se dire, Seigneur, mais ta parole est bonne, ta parole est une lampe à mes pieds. Peut-être que nos agendas, nous avons besoin de les réformer pour mettre la centralité de Jésus dans nos vies. Lorsqu'on parle de la parole, c'est bien sûr Jésus qui, au commencement, était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Et lorsqu'on sait que c'est Jésus qui bâtit son Église, donc c'est la parole de Dieu qui bâtit son Église. On peut se réunir tous les dimanches, mais si la parole de Dieu n'est pas prêchée, n'est pas enseignée, est-ce qu'on a de la nourriture spirituelle pour grandir? Dans Actes 2, verset 42, lorsque l'Église s'établissait, il donnait 4 critères pour la croissance d'une Église. Et bien sûr, ça prend la persévérance, parce qu'on peut lire notre Bible pendant 2 semaines, tout feu, tout flamme, et au bout de l'agenda reprend, les enfants reprennent, et en fait, on commence à se refroidir. Et donc, c'est une discipline qui prend de la persévérance dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain qui est la scène de se rappeler de la mort de Jésus et dans les prières. En ce matin, quel est l'aspect que Dieu te dit, Seigneur, j'aimerais plus sur une partie. Peut-être qu'en église aussi, vous voulez dire, ah, on a besoin de plus de temps de prière, on a besoin de plus d'études bibliques. Prions pour des frères et des sœurs qui se lèvent pour servir. L'enseignement ne vient pas sans l'obéissance. Il y a une chose qui est facile avec la parentalité, c'est d'enseigner, de leur faire découvrir la nature, de leur faire découvrir la beauté des mathématiques ou de l'écriture. La chose la plus difficile, et si vous êtes parents, je pense que vous le savez, c'est de les faire obéir. Ça nous prend de la patience, ça nous prend de répéter. Et Jésus, ici, nous dit que c'est bien d'enseigner. Et il faut aussi observer et obéir à la parole de Dieu, car l'un ne va pas sans l'autre. Et donc c'est vraiment son appel pour la croissance et sa mission que les chrétiens, les disciples, enseignent et obéissent à la parole de Dieu. Et ce n'est pas une obéissance d'un dictateur, mais c'est une obéissance qui sort d'un amour pur, d'un amour qui donne l'envie d'obéir à Dieu. Et Jésus, lors de son dernier repas, nous dit « Celui qui a mes commandements, en Jean 14, verset 21, et qui les garde, c'est celui qui m'aime. Et celui qui m'aime sera aimé de mon Père. Je l'aimerai et je me ferai connaître à lui. » La promesse de Jésus est vraie, et que si nous nous enseignons les uns les autres et que si nous obéissons à sa parole, il sera toujours avec nous. Et c'est bien le quatrième ingrédient qui nous laisse aujourd'hui, qu'il sera tous les jours avec nous jusqu'à la fin du monde. Jésus, avant sa mort sur la croix, avait réuni ses disciples et il leur avait annoncé sa mort, mais les disciples ne comprenaient pas. Mais il avait aussi annoncé qu'une personne allait venir les soutenir, les consoler dans les moments difficiles. Il dit que le consolateur, le défenseur sera là pour nous guider et vivre en nous. Et c'est l'Esprit Saint qui arrive à la Pentecôte pour nous aider. Lorsque Jésus nous dit qu'il sera toujours avec nous, il nous parle de justement le Saint-Esprit. Il dit en Jean 14, verset 3, « Lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. » Lorsque vous regardez les actualités de ce monde, je ne sais pas quelle est votre opinion. Il y en a qui peuvent dire « ce monde va mal ». Iran, Israël, Ukraine, Russie, ce monde va mal. Gaza, la famine, les tempêtes. Ou bien on peut avoir cet œil qui dit, oui, ce monde va mal, mais on a cet espoir, on a cette espérance, on a cette joie qu'un jour Jésus reviendra nous chercher ou que nous nous en irons à la maison du Père. Et c'est cette espérance que Dieu veut que nous partageons dans ce monde si triste, sans Dieu, qui pense qu'on peut améliorer ce monde par nos propres moyens. Lorsque nous voyons la fin de l'histoire en Apocalypse, c'est un moment de joie. Lorsque Eliot nous a lu qu'un jour nous serons face à face avec Dieu le Père, nous le verrons enfin et il n'y aura ni pleurs, ni mort, ni souffrance, et que nous serons pleinement dans la présence de Dieu, mes frères et mes sœurs. Et c'est son plan à Dieu d'avoir toutes les nations, toutes les tribus, tous les peuples s'adorer et se rassembler pour louer l'agneau qui est Jésus. En ce matin, je ne sais pas où est-ce que tu en es avec les trois étapes de découvrir, de grandir ou de rayonner. Mais je sais que Dieu, si aujourd'hui t'a amené à venir ici, c'est qu'il suscite en toi ce désir de le connaître. C'est qu'il suscite en toi ce désir de grandir ou de rayonner. Et lorsqu'on voit ce monde et ces personnes qui vivent et meurent sans connaître Dieu, nous devons avoir cet œil de compassion que Dieu a et a eu envers nous, qu'il nous a choisis par grâce, non par nos mérites, non par nos œuvres, et qu'il attend que ces nations puissent entendre parler de la bonne nouvelle de Christ. En ce matin, pour conclure, peut-être un des ingrédients, comme nous l'avons cité, c'est peut-être d'être premièrement un disciple, de premièrement dire « Seigneur, c'est vrai que j'ai vécu ma vie sans te connaître, sans plier le genou, sans me repentir de mes péchés, et que je veux vivre une vie intègre dans ma vie de tous les jours, dans ma vie de couple, dans ma vie au travail. Je veux vivre la vie que tu m'appelles à être, à faire un disciple. » Ou peut-être que c'est le fait d'entendre parler de 3 milliards de personnes qui vivent, meurent et errent sans connaître Jésus qui te touche. Ou peut-être que tu as grandi dans cette église et que tu te dis « le baptême c'est pour plus tard ». Dieu t'appelle à t'engager aujourd'hui, à marcher à sa suite. Ou peut-être c'est le fait de grandir dans la parole de Dieu et d'avoir plus de moments proches dans la parole de Dieu en église et personnellement. Je suis persuadé qu'avec Philippe Gao et avec d'autres frères dans l'église, vous avez des ressources que vous pouvez utiliser et être béni avec. Ou peut-être c'est de dépendre entièrement du Saint-Esprit, jour après jour. De regarder en Galates 5, 22, les fruits de l'Esprit, et de dire « Seigneur, je manque de patience envers mes enfants. Je manque de maîtrise de moi lorsque je suis au travail. » Pour faire un bon barbecue, il faut tous les ingrédients, même de la salade. Et donc la mission de Dieu, c'est tous les ingrédients qu'il nous laisse. Peut-être qu'en ce matin, un des ingrédients te touche personnellement. Et vraiment, je t'invite durant cet été à persévérer dans la connaissance de Dieu, à voir un grand frère qui peut te suivre et te dire « je suis disponible pour toi une heure par semaine » et à discuter ensemble, à être ensemble, redevable, vulnérable et à grandir. Veux-tu t'engager par amour et obéissance à Dieu lorsqu'il t'a déjà tout donné en Jésus-Christ? Et c'est un privilège pour nous de faire partie de son œuvre, de faire des nations des disciples. Et en ce matin, j'aimerais vous encourager à grandir en Église, à grandir personnellement et à rayonner dans la ville de Saint-Maur, Créteil. Prions ensemble. Père éternel, merci pour ta parole. Ta parole qui nous montre le chemin, ta parole qui nous guide et qui nous montre aussi ta volonté. Seigneur, merci pour ce privilège que nous avons ensemble d'ouvrir cette parole et de pouvoir s'encourager les uns les autres à te connaître et à connaître ton plan pour l'humanité, ton plan pour toutes ces personnes qui vivent et meurent sans te connaître, qui n'ont pas cette espérance, qui n'ont pas cette joie, cette ce pardon de leurs péchés et cette vie éternelle. Seigneur, on te remercie pour cette grâce que tu nous as faite de nous avoir choisis, élus, adoptés dans ta famille. Et Seigneur, je prie qu'en ce matin, par ton esprit, tu puisses nous convaincre de la marche à suivre, de la prochaine saison que personnellement et en Église, l'Église de Saint-Maur va vivre. Seigneur, je te remercie pour les bergers que tu pourvois à cette Église. Tu vois l'état de la France, tu vois l'état du Québec, où plus de 1000 pasteurs sont en recherche. Et Seigneur, on te remercie de faire du bien à Philippe Gao et à Marie, Seigneur, dans leur temps. On te remercie aussi pour Clément Lévesque et son épouse, Seigneur, donne-leur du bon repos. Seigneur, merci pour la fidélité de pasteur Daniel et de son cœur pour toi et pour ton Église. Et Seigneur, suscite de nouveaux ouvriers, suscite des hommes et des femmes qui vont se lever pour te servir et pour participer à ta mission. Quel privilège, et que toute la gloire te soit rendue et que ton nom soit connu de tous. Au nom de Jésus-Christ. Amen.
Merci Philippe pour ces ingrédients, pour le barbecue. On sent un peu le barbecue, mais ce n'est pas le barbecue aujourd'hui, dommage. Mais Bernard va quand même nous régaler avec de la salade, c'est sûr. En tout cas, merci à toi, merci à ton épouse et à ta famille de nous rendre visite. Et peut-être qu'on pourra prendre plus de temps, si vous restez déjeuner, pour prendre de vos nouvelles et de voir ce que Dieu fait dans vos vies au Canada. Je vais faire quelques annonces. Le culte de la semaine prochaine, classique, on aura présence louange Mike, prédication, on aura aussi un frère de l'église de Lagny, Ruben. Et ensuite, on a une autre après-midi aujourd'hui de rangement de l'église, donc c'est ménage et rangement. Donc il y a des endroits qu'on a peut-être oubliés dans le ménage durant l'année. Et aussi du rangement pour chacune des personnes qui sont dans un service. Vous savez quels sont les différents départements ou salles dont vous avez la charge. Donc c'est le moment aussi de faire du ménage. Donc voilà, donc c'est cet après-midi. On a le week-end d'église qui aura lieu du 31 octobre au 2 novembre. Ça sera dans le Val d'Oise. Je vais vous envoyer les informations. Vous pouvez déjà vous inscrire. J'ai aussi créé le lien d'inscription. Voilà, donc on vous donnera tous les détails, soit l'annonce de l'année prochaine, mais aussi dans le chat WhatsApp et aussi dans la newsletter, donc vous aurez toutes les informations. Philippe, je vais te réinviter à venir devant nous pour la bénédiction. Oui. Ah, ok, vas-y.
Oui, merci, chère Église. On a dîné avec Philippe, enfin, dîner au Québec, c'est déjeuner. On a déjeuné avec Philippe, Daniel et Clément et ils nous ont vraiment encouragés à vous donner des nouvelles. Merci pour votre soutien, votre invitation, c'est précieux pour nous. Et on voulait juste vous donner quelques nouvelles.
Bon, bonjour à tous. Pour ceux qui ne me connaissent pas, du coup, moi, c'est Myriam, mariée avec Philippe depuis déjà 10 ans. Et nous avons 3 enfants, donc Joy qui a 7 ans, Elijah il a 6 ans et Hope, Alan a 2. Donc voilà, nous sommes missionnaires depuis 2021. Donc on a commencé cela avec le Logos. Nous sommes allés à bord du Logos en 2021, et ce pendant 7 mois. Donc ça a été une expérience très douloureuse, mais bénéfique pour notre famille. Dieu nous a permis d'être vraiment soudés. On a vécu pas mal de quarantaines. C'était toujours un peu la période Covid, où on a été 40 jours enfermés dans une cabine. Donc vous imaginez, c'est tout petit. Donc voilà. Et après, on a dû malheureusement quitter l'aventure au bout de 7 mois. Mais Dieu avait eu tout au contrôle, comme d'habitude. Et il voulait qu'on aille à All Nation. Donc All Nation, c'était du coup plutôt pour moi. C'était pour connaître mon identité en Christ, qui suis-je, qui est Dieu pour moi. Et du coup, j'ai suivi cette formation pendant que Philippe se concentrait à travailler sur lui-même. Et ensuite, en 2023, il a eu à cœur que nous allions faire un institut biblique, mais en couple. Donc, on comprenne bien les bases, qu'on s'ancre en couple, en famille, dans la parole. Et donc, pendant toute une année, nous sommes allés à Genève pendant tout, voilà, en 2023.
Donc, voilà un peu pendant ces 3-4 dernières années ce que le Seigneur a fait. On a beaucoup déménagé. Et je ne sais pas, quand vous pensez au Québec, à quoi vous pensez ? Nous, on ne connaissait pas du tout le Québec et ça ne nous avait jamais parlé de vivre au Québec ou quoi. Mais un peu de statistiques de la mission au Québec. Au Québec, il y a 0,9% de chrétiens évangéliques, soit 80 000 chrétiens recensés dans la région. Et ce qui est paradoxal, parce qu'il y a beaucoup de grandes organisations comme de grandes églises qui sont sur les médias, sur YouTube, mais dans la réalité, il y a une chance sur 165 de rencontrer un chrétien. Pour vous dire, nos enfants, toutes leurs amies sont non chrétiens à l'école. Donc, dans aussi 10 ans, un peu la même situation que la France, une église sur deux sera sans pasteur ni responsable. Donc, c'est lorsqu'on a entendu parler de cela, et aussi qu'avant les 1960, les Québécois étaient très catholiques. Le prêtre avait toute autorité. Il pouvait aller dans une maison et dire « Ah, vous n'avez pas assez d'enfants, il faut faire des enfants, sinon vous allez en enfer. » Donc, eux, les Québécois, faisaient 15 enfants par foyer. Et il y avait aussi beaucoup d'abus, que ce soit sexuel ou que ce soit d'abus d'autorité. Et c'est pour ça, en fait, que les injures au Québec sont des injures chrétiennes. Tabernacle, hostie, sont des injures pour insulter, en fait, l'Église et les chrétiens. Et aussi l'opposition. Donc, il y a beaucoup d'anglophones. Donc, quand on est anglais, on est protestant. Et quand on est francophone, on est catholique. Donc, c'est un peu être protestant évangélique, c'est un peu faire partie des ennemis anglophones. Parce qu'ils sont que 9 millions sur 400 millions d'anglophones. Et dernièrement, la culture, sur tout ce qui est éthique, c'est beaucoup plus avancé. L'assistance médicale à mourir, l'euthanasie, c'est déjà légal depuis une dizaine d'années. Le cannabis et l'avortement sont légales et gérés par le gouvernement. Et on peut même avorter jusqu'au jour de l'accouchement. Donc, toutes ces choses-là, en fait, sont dans la culture québécoise. Et pour nous, Français, on se dit « Waouh, c'est trop !» Mais pour eux, c'est vraiment la culture de la liberté. Tu veux être un homme, une femme, tu es libre. Donc, même les enfants, dans leur agenda, ils ont des encouragements dans des livres. Joy est revenu avec « Papa est une princesse » pour initier les enfants à 5 ans, 6 ans sur le transgenre. Ou l'homosexualité, Elijah est revenu avec un livre « Mes papas et leur camping-car » pour montrer la situation de couple de deux hommes, deux papis. Donc voilà un peu dans quel contexte nous vivons. Il y a trois générations. La première génération, les plus de 65 ans, ils sont en colère contre l'Église catholique et les chrétiens. La deuxième génération, les entre 20 et 64 ans, c'est le bonheur, le matérialisme, le rêve américain, le petit chien qui va avec. Donc c'est vraiment ça qu'on rencontre au quotidien. Et la troisième génération, c'est la jeunesse. Cette jeunesse qui a le désir de connaître Dieu, mais qui ne savent même pas si c'est Mohammed ou Jésus qui a été crucifié sur la croix. Donc c'est un peu, ça c'est mon pasteur Yannick Etier qui a partagé cette information. Donc voilà un peu, tu veux parler de l'Église Espoir ? Ah excuse-moi, vas-y je t'en prie. Oui, l'Église Espoir.
Donc, nous sommes à l'Église Espoir où il y a 300 membres, dont 30 nationalités différentes. Donc, c'est une très grande église et on est richement béni dans cette église. Il y a Philippe, bah, c'est de mon côté ça.
Okay.
Du coup, moi, je fais partie de la louange. Donc, là-bas, je suis suivie par le pasteur louange, donc Michel Vincent. Avec lui, c'est beaucoup de coaching, hein, c'est-à-dire où en est mon cœur d'adoratrice, parce que ce qu'il m'enseigne, c'est que la louange, c'est vraiment la pointe d'iceberg. Et en fait, l'adoration, c'est ce qui est en dessous, ce qui émerge, en dessous. Donc c'est ça qui est important. Et puis le dimanche, c'est vraiment l'explosion, l'adoration. Voilà, c'est ce que toute la semaine j'ai fait avec Dieu, qui après se manifeste encore plus le dimanche auprès de frères et sœurs. Donc voilà ce que je fais. Et puis j'ai participé, je fais aussi de la guitare, comme vous pouvez voir sur une des photos là. Je joue de la guitare depuis bientôt un an. Ça se passe bien, mais toujours dans les débuts. Et nous accueillons énormément, donc vous êtes les bienvenus si jamais vous souhaitez faire un passage au Québec. Vous êtes les bienvenus à la maison. Dieu a permis qu'on ait un logement pour pouvoir accueillir. Donc on a beaucoup accueilli depuis qu'on est là-bas, comme vous pouvez le voir sur les photos. Donc voilà.
Et donc pour moi, c'est un ministère avec l'église de prédication, où on m'envoie dans des églises qui n'ont pas de pasteur, et aussi d'évangélisation. Comment créer un pont entre l'Église et la société. Donc, je suis en relation avec la police de Longueuil, où avec 40 policiers, on va présenter un spectacle de la part de notre Église. Et aussi, j'équipe les chrétiens québécois à partager l'Évangile ou leur témoignage. Et bien sûr, les baptêmes dont je vous parlais à la prédication. Donc voilà, c'est un peu ce qu'on a pu faire durant cette deuxième année. La première année, c'était vraiment s'intégrer à une nouvelle culture. La deuxième année, c'était vraiment commencer le ministère et aussi finir ma maîtrise que je finis en décembre. Donc voilà, on est vraiment reconnaissant de l'invitation de Philippe et de pasteur Daniel pour aujourd'hui. Et nous, le plus important, c'est vraiment le lien avec vous. Si vous voulez continuer à recevoir nos newsletters, venez nous voir. On a un petit stand avec une carte de prière et aussi trois sujets de prière qu'on vous laisse. C'est de prier pour notre famille. L'année dernière, on est rentré 4 jours et en fait, le papa de Myriam est décédé et a rejoint le Seigneur après un cancer du sang à 64 ans. Mais on patauge avec le deuil à distance et on s'accroche au Seigneur. On veut continuer la mission et donc prier pour notre été et notre tournée d'été. C'est vraiment une grâce d'avoir reçu votre invitation pour vous servir et prier pour que Dieu suscite de nouveaux partenaires. Quand on parle du Québec, c'est très nouveau en fait. On ne se rendait pas compte de ces stats. Mais il y a une pauvreté spirituelle et un vide qui est vraiment triste à voir. Et c'est vrai que quand on parle de mission, on pense peut-être plus à l'Afrique ou à d'autres nations plus pauvres. Mais priez pour que des nouveaux partenaires, si le Seigneur vous suscite le désir de soutenir et de rentrer dans sa mission à travers notre famille, venez nous voir. En tout cas, on vous partage un dernier verset qui est... Tu veux le lire, chérie ?
Goûtez et voyez combien l'Éternel est bon. Heureux l'homme qui cherche refuge en lui. Craignez l'Éternel, vous ses saints, car rien ne manque à ceux qui le craignent. Psaume 34, 9, 10.
Merci. Et donc, je vais vous inviter à vous lever et on va prier ensemble. Ouais. Père éternel, merci pour toutes tes grâces manifestées en Jésus-Christ. Merci parce que nous avons tout en notre Sauveur. Nous avons la joie, le bonheur, la grâce. Et Seigneur, que cette semaine, nous puissions être tes disciples, à marcher à ta suite et à porter du fruit pour ta gloire seule. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen.